Lightspeed Restaurant offre aux restaurateurs une solution de caisse tout en un, simple et intuitive. Paiement intégré, gestion multisite, paiement à table, gestion des stocks, intégration du système de réservation, rapport de vente intégré. Lightspeed est le logiciel de caisse de référence de milliers de restaurateurs et hôteliers en France. À table avec. À table avec. Le podcast du magazine Le Chef. Truculent, énergique, haut en couleur, c'est avec Philippe Etchebest que nous avons rendez-vous aujourd'hui dans le nouvel épisode d'À table avec, le podcast du magazine Le Chef. Il est l'un des visages les plus connus de la gastronomie actuelle, mais malgré sa présence médiatique, il reste avant tout un chef passionné, ancré dans son terroir et avide de perpétuer l'art de la grande cuisine française, dont son titre de meilleur ouvrier de France est le symbole. Facette moins connue de sa personnalité, l'entrepreneuriat est pourtant une composante essentielle de son quotidien de rocker pas vraiment repenti. Ensemble, retraçons son parcours exemplaire de cuisinier, devenu personnalité publique, qui a fait sienne les valeurs de transmission, de partage et de générosité. Bonne écoute!
Bonjour Philippe!
Bonjour!
Je suis très contente aujourd'hui de te retrouver dans ta maison, qui s'appelle Maison Nouvelle, qui est la dernière née de tes maisons. Merci de nous y recevoir pour passer un petit moment ensemble et revenir sur ton parcours, si tu veux bien.
Alors déjà, tu sais pourquoi Maison Nouvelle ?
Eh bien non, je n'ai pas posé la question.
Ah, mais tu vois.
Dis-moi.
Tu vois. En fait, je ne voulais pas mettre mon nom, je ne voulais pas mettre Etchebest.
D'accord.
Mais c'est quand même mon nom.
C'est en traduction ?
Ouais.
Okay.
Etchebesté, Etche Maison, Besté, l'autre, la nouvelle. C'est la traduction de mon nom, tu vois.
Pas mal,
ouais.
Pas mal. Donc tu t'es caché derrière la traduction.
C'est ça.
On va repartir un petit peu en enfance, si tu veux bien. La cuisine était évidemment très présente puisque ton papa était restaurateur. Mm-hmm. Donc tu vas nous parler un petit peu de ça. Il y a eu quand même une hésitation sportive à un moment.
C'est vrai.
Mais on est resté à la cuisine.
Oui,
qu'est-ce
tout à fait.
Qui a fait que, est-ce que tu peux,
non, mais alors après, c'est vrai que j'ai baigné dans la cuisine dès mon plus jeune âge. J'aimais aller travailler avec mon père. Je crois que j'ai commencé à aller en cuisine, je devais avoir 7 ans.
Oui.
J'ai commencé à éplucher des pommes de terre, faire des petites tâches, mais j'appréciais beaucoup le faire. Puis c'était aussi certainement pour passer un peu de temps avec mon père.
Mm-hmm.
Ensuite, effectivement, quand est arrivé le choix de l'orientation, j'ai hésité avec sport-études. J'avais un bon niveau sportif,
rugby
notamment, et puis au niveau scolaire, j'étais pas trop mal non plus. Et puis finalement, je sais pas, la voie de la raison, je sais pas comment finalement j'ai changé. Et puis peut-être que c'était plus évident d'aller vers la cuisine, ce qui m'a pas empêché de suivre une carrière sportive aussi. Donc voilà, je regrette pas mon choix aujourd'hui.
Pas du tout, on pourrait penser, quand on est le fils d'un restaurateur, que le père pousse à rester en cuisine. Est-ce que tu as senti ça ou pas du tout ?
Pas du tout.
Okay.
À aucun moment, mon père ou mes parents ne m'ont poussé à faire ce métier. Je pense que au fond d'eux, ils étaient contents, certainement. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu d'obligation.
Ok. Le sport n'est évidemment pas mis de côté. On y reviendra. Tu continues à en faire. Donc, on part dans des études classiques.
Très classique. École hôtelière.
Oui.
École hôtelière à Talence.
Oui.
Et puis, pour des stages pendant cette période-là.
Donc, tu as fait effectivement ces études, quelques parcours, notamment des stages chez Jean Bardet, Jacques Chibois.
Oui, j'ai commencé chez Jean-Pierre Coll, Jean-Marie Amat, mon premier stage,
oui,
au St James, en salle.
À Bouliac.
À Bouliac, c'était en salle. Ensuite, Jean-Pierre Coll à Mimizan. Ensuite, j'ai fini la scolarité et donc j'ai intégré l'entreprise familiale. Et pendant ces périodes-là, l'été, en fait, mon père m'envoyait en stage dans des belles maisons étoilées, justement pour approfondir mes connaissances.
Contraint et forcé, ou ça te faisait plaisir d'aller voir ce qui se passait?
Non, j'aimais bien.
Ouais, t'aimais bien.
Non, c'était intéressant, ça me sortait un petit peu de la maison et ça me permettait de voir autre chose. Donc j'ai fait Firmin Rambide à Saint-Jean-Pied-de-Port, mm-hmm, les Pyrénées. Jean Bardet à Tours, quand il a repris, justement, c'était en 87.
Il avait déjà son potager à cette époque-là?
Je crois qu'il avait son potager, ouais, absolument. Mais mm-hmm, en tout cas, c'était quand il s'était installé là-haut, là, dans le parc Beaumont.
Mm-hmm.
Ensuite, Jacques Chibois au Grès d'Albion. Et c'est lui qui m'a vivement conseillé de ne pas rester chez moi, en fait, de ne pas rester chez mes parents. Il m'a dit, il faut que
tu ailles
voir ailleurs. Et c'est lui qui m'a envoyé donc avec le chef Jean-Marie Meulien au Clos Longchamp à Paris.
Donc c'est un bon conseil.
Ouais.
Aujourd'hui, avec le recul, tu te dis c'était bien de partir un peu.
C'était bien de partir. Alors, c'était dur parce que j'avais l'impression de laisser un peu tomber mon père. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, papa, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Mon père m'a dit, mais non, mais vas-y, va-t'en. Il m'a dit, va-t'en.
Va apprendre un peu.
Va apprendre, va ailleurs.
Et Claude Longchamp, tu nous en parles un peu pour... Donc, Paris, c'était le passage obligé à l'époque ou...
C'était pas un passage obligé. En tout cas, c'est... Finalement, j'ai pas eu trop le choix puisque Jacques Chibois m'a dit tu vas aller voir ce chef-là. Il m'a formé. C'était le chef de Louis-Houtier, Alain Lapoule, 3 étoiles au Guide Michelin. Ça m'a fait bizarre finalement d'aller dans une structure comme le Méridien, hein, parce que c'est le restaurant gastronomique.
Le Méridien Étoile.
Le Méridien, Méridien Étoile, à l'époque le plus grand hôtel d'Europe avec 1000 chambres.
Qui est toujours énorme. Hein,
c'était colossal. Me retrouver dans cette structure, ça m'a fait bizarre. Et puis finalement, j'ai beaucoup appris avec ce chef. J'ai vite évolué, puisque je suis arrivé là-bas comme demi-chef de parti. 6 mois après, Jean-Marie Meulien me passait chef de parti. Et 6 mois plus tard, il me proposait la place de second. Et là, ça a été c'était une décision à prendre qui n'était pas facile, parce que je ne me sentais pas légitime, déjà.
Bien sûr,
avec des gars dans la brigade qui étaient là, depuis 10 ans, et qui attendaient la place. Et waouh, je dis quelle responsabilité. Et j'en ai pas pareil. J'ai passé un coup de fil à mon père. Je dis papa, t'en penses quoi? J'avais besoin de son conseil. Il m'a dit vas-y, fonce.
Bah, il faut prendre quand même.
Vas-y, fonce. Et puis on y va quoi. Voilà. Et avec à peine un an de maison. Et puis j'étais jeune, j'avais à peine 23 ans. Trouver à la tête d'une brigade et seconde cuisine comme ça, c'était pas évident.
Alors, c'est ce chef-là qui t'a donné le goût des concours, parce qu'on va évidemment en parler cette volonté de faire des concours, de pas mal les réussir. Et voilà, les concours de cuisine, c'est aussi challenging quand on est jeune. Ton père était comme ça?
Oui, hein, mon père faisait des concours.
D'accord, ok.
Mon père faisait des concours. Il a fait le Tétinger, il avait fait Expotel, et j'étais souvent son commis. Et j'ai fait mon premier concours à l'école hôtelière, j'avais 16 ans. C'était le championnat de France du dessert.
Oui.
C'est le premier concours que j'ai fait, en fait. J'ai fini deuxième.
Pourquoi t'as commencé par un concours de dessert?
Parce que c'est le professeur de pâtisserie qui me l'avait demandé, tout simplement.
Il dit, bon élève, ok.
Mais ouais, bah, j'y vais. Et il se trouve que j'aime aussi beaucoup les desserts, je suis très gourmand. Donc voilà, puis après ça s'est enchaîné, puis je crois que l'envie de faire des concours a été un moyen de me challenger aussi, de voir si j'étais capable. Et c'est parti comme ça, en fait. Et puis après, il y a eu Meilleur Hôtel de France.
On va évidemment en parler. C'est les concours que tu as beaucoup fait. Aujourd'hui, tu as plaisir. Alors évidemment, il y a Top Chef, mais aller être jury dans des concours, c'est un truc qui te plaît?
Bah, c'est bien, ouais. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aller en cuisine, en fait, plus que de déguster.
Oui, d'ailleurs, je crois qu'on s'est vu en cuisine. Il y a 2 ans au MOF, tu étais jury cuisine.
Ouais. J'aime beaucoup aller en cuisine, voir les gens travailler.
Petit retour, on va dire chronologique, tu retournes à Toulouse, tu vas à Toulouse en 93.
Oui, absolument, après
Paris.
Parce que j'avais envie de bouger aussi, ça faisait 4 ans que j'y étais, j'avais envie de voir autre chose. Et à l'époque, j'avais mon meilleur pote, Michel Portos, qui était chef chez Dominique Toulousi. Et qui savait que je voulais bouger. Et il m'a appelé parce que lui, il voulait partir chez Trois Gros, sa maison Trois Gros. Il m'a dit, écoute, je m'en vais, si tu veux, il y a une place à prendre au Jardin de l'Opéra. Et voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement.
Ça. Ouais. Bonne expérience.
Très bonne expérience.
Tu es resté deux...
Deux ans et demi là-bas, très bonne expérience. Il y a encore une évolution, justement, sur une place de second chef, on va dire, avec un chef très technicien qui était super. Enfin, j'ai beaucoup aimé le couple Dominique et Marie Toulousi. Puis c'était une belle maison. Aussi, à l'époque, je pense que c'était le restaurant de Toulouse, hein, qui avait Pinot sur Rue, le seul 2 étoiles Michelin.
Ouais.
Et non, très très belle expérience. Puis en plus, j'y ai rencontré ma femme.
Et donc, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire que je dis une bêtise si c'est là que Dominique arrive.
Ouais, c'est là que Dominique
c'est à Toulouse,
arrive.
Alors.
Je l'ai rencontré au marché Victor Hugo en faisant des courses le matin.
Si je dis pas de bêtise.
Mais ses parents étaient bouchers. Et voilà, ça s'est fait comme ça. C'était en 94, octobre 94.
Et donc Dominique est toulousaine?
Eh oui.
Ok, une oui. Point d'ironie, on laisse, ouais, on laisse de côté.
C'est toujours par rapport au rugby. Quand je reçois des Toulousains ici, je dis non, pas des Toulousains. Mais c'est toujours une référence rugbystique.
Et on arrive à cette première place de chef, qui est toujours un point marquant dans une carrière, si je ne dis pas de bêtises, au Grand Hôtel Barail.
Le Grand Barail, le Château Barail. Grand Barail.
Donc, je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'était un hôtel. Ouais.
Et tu prends ta première place de chef.
Ouais.
Et ça,
ouais,
ouais. C'est...
Alors ça s'est fait, c'est marrant parce que j'étais en visite chez un copain qui est viticulteur. Et on passe devant ce château. Je fais « Waouh, qu'est-ce qu'il est beau ce château !» Il m'explique « Ouais, ça fait 2 ans que c'est ouvert. Ouais, je sais pas, ça marche trop bien. » Enfin, il m'explique un petit peu le truc. Et je serais bien qu'on y aille manger. Et puis, on y a été manger. Mm-hmm. Et bon, le repas, c'était pas terrible, hein, je dois l'avouer. Et il se trouve que les propriétaires étaient juste à côté de moi. Je ne savais pas. Et bon, on faisait nos petits commentaires entre nous, quoi. Bon, voilà.
Et ils t'entendent.
Et je pense qu'ils ont un petit peu entendu. Et à la fin du repas, le propriétaire s'est levé et m'a expliqué, voilà, ça fait 2 ans qu'on a ouvert, on est une jeune équipe, blablabla. Si vous avez voilà, des conseils, des remarques, n'hésitez pas. Bon, je ne voulais pas en faire parce que...
C'était les prémices de Cauchemar en cuisine.
Oui, bah, ça aurait pu, ça aurait pu, mais bon. Et puis, il a tellement insisté que finalement, ben, j'ai dit, écoutez, moi, je trouve que la cuisine n'est pas à la hauteur de cet établissement. C'est vraiment insisté, mais je suis pas comme ça. J'aime pas faire ça, mais il a tellement insisté que j'étais obligé de le dire. Et puis je suis parti là-dessus. Et j'avais la carte postale du château, et je regardais cet établissement. J'ai finesse quand même. Quel dommage.
Ça te fait envie.
Ah ouais, ça me faisait envie. Ouais. Et je crois que c'est la première fois que j'ai envoyé un CV de ma vie. J'ai envoyé mon CV. J'ai eu une réponse négative, parce qu'il y avait une équipe qui était en place, forcément. Et 2 mois après, je recevais un message du propriétaire sur mon répondeur à l'époque. Là, tac, je rentre à Nantes, t'écoutes le répondeur. Et les propriétaires me disaient qu'il y avait des changements et qu'ils souhaitaient me rencontrer. Voilà, ça s'est fait comme ça.
On va faire une petite pause sur le MOF. Donc, on sait que tu aimais bien les concours.
Oui.
Tu te présentes au MOF sous les, entre guillemets, conseils de qui ?
Pas de conseils. C'est Michel Portos qui me chope et me dit
«
Tu veux pas qu'on passe le MOF ?» Bah, je dis « Ouais, si tu veux. »
Donc, première fois que
première
tu
fois.
Passes ?
Première
alors,
fois.
Tu t'es fait aider dans ces préparations ou tu étais vraiment commando ?
Non, commando. Je faisais ça l'après-midi, je faisais ça le soir après le service. Et j'ai fait des soufflés, j'en ai fait un paquet. Alors c'est marrant parce que ça m'a appris beaucoup de choses, et c'est ce que je dis aussi à ceux qui parfois préparent le concours et qui ont besoin de conseils, c'est de ne pas trop écouter
trop d'avis.
Ouais. Parce que j'ai commencé à m'entraîner où j'avais sorti quelque chose de plutôt correct, c'était à peaufiner bien sûr, mais plutôt correct. Et puis à un moment donné, le deuxième ou troisième jour, il y a coup de fil des uns et des autres, il faut pareil, j'ai entendu qu'il fallait pas faire ci, il fallait faire ça, voilà. Et en écoutant et en essayant en fonction des avis qui étaient donnés, ben je faisais un gros tas de merde. Alors je me suis dit, je vais arrêter.
Tu as fermé les écoutilles.
Oui, j'ai complètement fermé, j'ai coupé le téléphone et je suis resté dans mon idée. Et j'étais au bout de cette idée. Et tant mieux, parce que la preuve, ça a marché. Et je me rappellerai toujours, le jour où on a reçu le sujet, quand j'avais le service, je me suis posé après le service. Je me suis mis devant une feuille de papier avec un crayon, ce que je fais très rarement. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ?
Oh.
Et j'ai passé...
La page blanche, quoi.
Page blanche, presque toute la nuit à prendre des notes et à dire qu'est-ce que j'allais faire. Parce que tu n'as que 5 jours. Donc, tu as déjà un jour qui passe où tu penses les plats. Le deuxième jour où tu vas faire des essais. Ouais. Et il reste, même pas. Il reste, oui, mais là-dedans... En plus, moi, j'avais fait la demande de passer en premier. Ce qui est idiot, parce que c'était sur 3 jours. Donc l'intérêt, c'était de demander de passer le dernier jour pour avoir plus d'essais.
Mais moi, non. Débarrasser.
Ah, moi, je veux être débarrassé, en fait. C'est terrible. Hein. Je voulais être débarrassé de ça, donc je voulais passer le premier jour. Et en fait, j'ai fait que 3 essais. Et après, je suis parti à Strasbourg. C'était à Strasbourg, avec la fourgonnette du château, réfrigérée, avec toute la marchandise. Presque 900 bornes d'un pet.
Tout seul ?
Non, je suis parti avec Dominique. Après, je peux raconter le MOF. Je suis arrivé, alors mes fraises des bois avaient tourné parce qu'il faisait extrêmement chaud. Et je suis arrivé le premier jour, le jour J en fait, mais juste à l'heure, je sais pas pourquoi parce que j'avais été au marché, je m'étais trompé. Enfin, bref,
et c'est un peu débordé par
un
le temps,
peu, un peu la panique. Mais je suis arrivé à l'heure, un peu limite. Et là, je suis rentré dans ma bulle, et je dis toujours, je suis rentré sur un ring et j'étais prêt au combat.
Ouais.
Et au bout de 15 minutes, je me coupe. mais je m'en taille le doigt, le pouce avec le désosseur en faisant mon canard. Je dis souvent, le mental est très important. Ouais. Ne pas se laisser déstabiliser par quelque chose. Et t'apprends, hein, t'apprends vite. Et pour ça, moi, le sport, il m'a beaucoup appris. On pourra revenir après, mais le conditionnement et le mental, et rester dans ton truc, dans ton objectif, ne pas être déstabilisé. Et là,
déroule.
Je ne touchais pas par terre. Ouais. Je ne touchais pas le sol. Et je me rappellerai toujours de... Il y avait un des jurys, Monsieur Legras, qui est un super chef. Il m'a toujours dit, je t'ai vu faire. Il m'a dit, c'était incroyable de te voir. Tu étais en transe devant ton piano, devant ton truc. C'était presque beau de te voir bosser. Il me l'a redit. Et souvent, il m'en reparle de ça. 30 minutes, je dresse mon plat. J'envoie. Tcha! Et là, il me restait que le dessert à faire, mais j'avais presque fini. Et je me rappelle de cet encouragement de Jean-Luc Danjou qui me dit « Allez, vas-y, tu lâches pas tes dents, lâche pas, lâche pas. » Et bien, je lâche pas, bien sûr, parce que c'est pas, j'aime pas lâcher. Je fais mon dessert, tac, 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 j'envoie. Et là, fin de l'épreuve, et j'étais le premier à passer. On m'amène dans une salle d'isolement, parce qu'il fallait que j'attende que tous les candidats aient fini. Ouais. Et je me rappelle, je demande à... « Je pourrais avoir une bière, s'il vous plaît ?» j'ai bu ma bière, ça m'a fait du bien. Je suis rentré à l'hôtel et j'ai dit à Dominique, j'ai dit, écoute Dominique, j'ai tout donné.
Mais là tu t'es dit, j'ai tout donné et j'ai bien donné, tu t'es senti que tu avais bien fait?
J'ai fait le maximum.
Okay.
J'ai dit, si je suis mof, tant mieux, si je suis pas mof, c'est que je suis pas au niveau, mais j'ai pas de regrets. C'est ça aussi, d'accord, je dis souvent, c'est pas de perdre ou de rater qui est grave, c'est le sentiment de ne pas avoir tout donné. Et moi j'avais vraiment le sentiment d'avoir été au bout de ce que je pouvais faire, donc j'avais le niveau, tant mieux, ou j'avais pas le niveau, mais en tout cas j'avais donné le maximum de moi-même.
Et alors la fin pour toi est heureuse, puisque effectivement tu as eu le titre. Comme tu es quelqu'un de combattant, et tu l'aurais pas eu, t'aurais refait?
Ouais,
ouais, d'accord.
C'est exactement ce que j'ai dit à Dominique. Après coup, j'écoute, si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave, je recommencerai parce que je me suis éclaté.
Éclaté.
Et je me souviens, le lendemain, j'étais off, je me suis... ça faisait 2-3 nuits que je ne dormais pas quand même, parce que je faisais mes essais la nuit, après le service. Je me suis levé à 6 heures du matin, comme ça.
Qu'est-ce que je fais aujourd'hui?
Non, prêt à partir au concours.
Ah ben non.
Mais qu'est-ce que tu fais? Ah mais je dis merde, j'ai fait le concours, c'est vrai. Et alors on s'était levé très tôt, on avait visité Strasbourg, on avait fait des bateaux mouches. Je n'ai rien vu parce que j'ai dormi pendant toute la balade des bateaux mouches, j'ai ronflé. Je dormais, j'étais crevé. Et le surlendemain, donc il y avait les résultats. Il y avait encore une épreuve le matin et les résultats l'après-midi. On était au restaurant avec Dominique et je lui dis, je vais la voir.
Tu le sens?
Je vais la voir. Je me refaisais le truc, je refaisais le concours. Minute par minute, j'ai fait ça, je vais la voir. J'étais convaincu que j'allais y arriver, que j'allais la voir. Et je me souviens très bien, quand on est donc dans cette salle, avec tous les membres de jury, avec Joël Robuchon, Paul Bocuse, on est 56 ou 58 cuisiniers pour la finale, à la queue leu-leu, et Joël Robuchon qui appelle par ordre alphabétique. Et là, il arrive. Je te. Et je suis monté sur l'estrade. Il n'avait pas fini de m'appeler. Ouais. J'étais déjà sur l'estrade en train de serrer la main de Paul Bocuse et Joël Robuchon. La fierté, mon sang. Et ce sentiment de victoire. Je me souviens des cuisiniers qui étaient sur scène qui pleuraient. Moi, j'avais la mâchoire crispée. Je regardais Dominique et je serrais le poing comme ça. J'ai réussi. Ouais. Mais pareil, comme un combat, quand tu as fini le combat, que tu t'es entraîné dur, tu vois, pour affronter ton adversaire, et puis qu'à la fin que tu gagnes, c'est le même sentiment que j'ai eu. Et c'était un sentiment incroyable, une satisfaction, une fierté aussi, je pense. Après, c'est très personnel, mais aussi de savoir que Dominique allait partager cette expérience avec moi, quand même, c'était assez fort. Et puis de pouvoir l'annoncer à mon père. J'avais appelé Jean-Marie Melien aussi pour lui dire. C'était à la fois émouvant et j'étais rempli vraiment d'une grande fierté.
Et ce sentiment, on le sent quand on en parle, tu le revis fortement, ça devait être dingue. On arrive à le retrouver un peu à d'autres moments où c'est vraiment un truc hors norme.
Ah, je pense que c'est hors norme. Ça.
Hors norme.
Ouais. Ah, vraiment. Et ça va au-delà des. On peut parler des étoiles,
oui,
par exemple. On peut parler de ça aussi. C'est très différent parce que c'est personnel et tu sais que ce titre, tu le gagnes, t'es seul, quoi. Il n'y a personne autour de toi, t'es tout seul. Tu le vis pleinement. De gagner des étoiles, tu le gagnes avec une équipe. Mais c'est une autre façon de partager un sentiment de satisfaction. Je dirais que j'ai eu un sentiment très fort et une grande fierté quand on a eu la deuxième étoile à Saint-Émilion. Mais c'est pas moi qui l'ai ressenti, c'est l'équipe qui m'a fait ressentir la joie et la fierté qu'ils avaient. Je l'ai pris comme ça, en fait. D'accord. Je l'ai pris en pleine poire. Mmh. Ils étaient plus contents que moi. Et forcément, c'est un moment et une émotion qui est très différente.
En fait, tu vois dans le regard...
Exactement, voilà, c'est le renvoi des
alors
autres.
Alors comme off, t'es tout seul avec toi-même.
Voilà, ouais, okay. Tu comprends, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Donc c'est une autre façon de...
La deuxième étoile et le regard des gens, c'est une bouffée que tu te prends.
Ah ouais.
Alors que le off, c'est plus intérieur.
Ah, c'est intérieur, ouais, c'est okay. Toi. Donc c'est deux façons de voir les choses, d'une récompense, mais qu'elle est aussi très très forte quand tu as une étoile ou deux, parce que t'as d'autres personnes qui sont impliquées. Ouais, donc forcément, c'est démultiplié encore.
Tu me fais le pont avec Saint-Émilion. Il y a eu effectivement, juste avant, tu me parlais de la Dordogne. Tu as fait un passage assez rapide en Dordogne.
2 ans et demi quand même.
Ah, 2 ans et demi où tu as obtenu une étoile aussi.
6 mois après, on avait l'étoile. Alors c'était une histoire improbable, cette histoire de Château d'Héréna avec Dominique. C'était l'envie de bouger aussi de Saint-Émilion pour finalement apprendre à gérer un établissement à part entière. Parce que à Saint-Émilion, au Grand Barrage, j'étais juste chef de cuisine. Et là, l'idée, c'était d'évoluer et de pouvoir gérer une maison à part entière.
Et d'avoir tous les propriétaires au-dessus.
Voilà, ouais. Et de le faire avec Dominique, le faire ensemble. Sauf qu'on n'avait jamais fait ça. C'était très vieillissant, un peu vétuste, il y avait beaucoup de choses à faire. Mais j'ai dit à Dominique, à mon avis, il y a un truc à faire là-dedans. Voilà, ouais. Je sentais
on
aussi.
On a dû entendre cette phrase quand même régulièrement.
Oui, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Et on s'est lancé dans l'aventure tous les deux. Et c'était épique. On avait, je peux le dire, des couilles tous les jours. On servait sur des nappes, il y avait des trous. Dominique, elle mettait des cailloux de Dordogne en espérant que les gens ne déplacent pas les cailloux. Il y avait la moquette double face où les gens se prenaient dans la moquette. Les chambres qui étaient dans un état, la tapisserie qui se décollait, les trucs, enfin c'était... Et voilà, on a travaillé vraiment dur à reconstruire aussi une équipe, et puis de dire au propriétaire, écoutez monsieur Després, au bout de 6 mois, il faut qu'on fasse quelque chose dans cette maison. Il faut tout refaire, parce que ça ne va pas. On a des idées, voilà, on sait qu'il n'y avait pas trop de budget, mais écoutez, on a des idées, on connaît des gens qui vont nous aider. Il faut quand même, il va falloir financer un petit peu, on va fermer 2 mois et puis on va faire le truc. Et il a dit, ok, on fait les travaux, mais on s'y est mis personnellement avec Dominique, arracher les moquettes, faire les escaliers, tout ça, avec une copine qui était dans les Beaux-Arts, qui a fait des peintures. On s'est investi à fond. On a été voir les banques pour comme si c'était à nous, quoi, pareil. Ouais. Et je me souviendrai de ce moment, le jour où on ouvre, je suis en train de balayer la réception. Dominique, je ne sais plus ce qu'elle faisait, elle était affairée au restaurant. Et là, la réceptionniste, avec ses grosses lunettes, je la vois, elle dit, chef, il y a un journaliste qui voudrait vous parler. Et là, je prends le journaliste, il me dit, bonjour, monsieur Etchevet, je suis journaliste, voilà, je voulais vous annoncer que vous avez une étoile. Et j'ai écouté, monsieur, on m'a déjà fait le coup une fois. On m'a déjà fait le coup une fois. Alors s'il vous plaît, on va attendre la sortie du guide. Merci, au revoir. Tac.
Et si c'était vrai.
Bam. Ce coup-ci, c'était vrai. Oh là. Oh, le miracle, parce que franchement, les conditions dans lesquelles on avait travaillé et tout ce qui nous était arrivé, on n'imaginait pas. Donc c'était une super belle récompense. Et là aussi, une très grande fierté de partager ça avec les équipes. Et puis voilà, c'était lancé. Et on est resté 2 ans et demi dans cette maison. C'était du bonheur parce qu'on a beaucoup, beaucoup appris. Parfois dans la douleur, mais ben, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on apprend. Et parfois, on apprend beaucoup plus vite.
Et tu reviens à Saint-Émilion, finalement.
Voilà, je reviens à Saint-Émilion.
Pas au Grand Barail, mais...
à l'Hôtellerie de Plaisance.
Exactement. Où tu vas passer 12 ans.
10 ans exactement. Novembre 2003, décembre 2013. 10 ans exactement.
On est resté là-bas. Dans cette maison, tu obtiens pour la première fois
2 étoiles. L'objectif, il était très clair, c'était d'obtenir la 2e étoile en 5 ans. C'est donné 5 ans pour l'obtenir, on l'a eu au bout de 4 ans. Alors la première année, à l'époque, il y avait les espoirs. Mm-hmm. Première année d'activité espoir 2 étoiles, bah, c'est vachement chouette. Bien, c'est chouette. Deuxième année, espoir, bon, c'est pas mal. Troisième année, encore espoir. Je dis, bon, ça commence à faire beaucoup.
1, 2, 3, c'est bien. On a compris.
Oui, on a bien compris. Et
en 2008.
Et en 2008, et finalement, la quatrième année, ben, la 2e étoile tombe. Et c'est là où je te disais, le retour de la brigade. Ah, en plus, je leur ai dit, je l'ai fait marcher un peu parce que je le savais. Et je dis, malheureusement.
Oh non, t'as fait ça.
C'est comme ça. Je dis, malheureusement.
On a la deuxième.
Non, on n'aura pas à attendre une année de plus.
On n'est plus espoir, c'est bon.
Là, et là, c'était mais explosion. Mais j'en avais
les
poils, j'en avais, ouais. Mais j'en avais des frissons, presque les larmes aux yeux de les voir comme ça, tellement c'était intense et fort. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, c'était top, quoi. Super récompense pour tout le monde et une grande fierté.
Et pendant cette dizaine d'années à Saint-Émilion, tu commences à faire de la télé?
Oh oui, mais alors bien plus tard, ça a commencé en 2011.
Oui, et comment ça commence en fait? Ça arrive comment?
Ben, ça arrive un coup de fil, hein, mm-hmm. Tout simplement, un coup de fil de la prod qui caste des chefs pour savoir voilà, s'ils peuvent être intéressés ou pas. Il se trouve que moi, j'étais pas intéressé. J'étais vraiment pas intéressé parce que j'ai pas aimé trop la démarche, comment ils expliquaient le truc, machin, ça m'a un peu saoulé, donc j'ai raccroché, je dis ça m'intéresse pas. C'est pour ça qu'ils ont rappelé. Ils ont rappelé derrière, ils ont insisté. Avec un peu plus de précision dans les explications. Et puis, j'étais pas plus agréable que ça. Mmh. Et Dominique me faisait des...
Sois gentil.
Et puis voilà. Et puis, j'ai fait le casting.
Pour Cauchemar en cuisine.
Pour Cauchemar en cuisine, ça a démarré comme ça. Puis, je me suis dit, bon, finalement... Je trouve que la démarche d'aider les gens est plutôt bien. Je le voyais comme ça, c'est aider les gens plutôt que de faire la télé. Et puis j'ai fait le casting, et puis j'ai été pris sous condition, bien sûr. J'avais mes conditions, c'était de dire, voilà, je ne joue pas un rôle et on raconte la vraie histoire.
Moi, c'est
voilà.
Moi. Et...
Voilà, et on raconte l'histoire.
Et donc, bah, c'était en 2011. Il y a évidemment Cauchemar en cuisine, Objectif Top Chef, l'histoire qu'on connaît, les émissions que tu fais aujourd'hui. Ça fait donc, si je suis pas trop mauvaise, 13 ans que tu fais de la télé.
13 ans, oui.
En fait, on se prend au truc, ça apporte autre chose. Qu'est-ce qui fait que, parce que tu continues à être chef, et évidemment, on va parler de Bordeaux, mais pourquoi on fait tout ça? C'est quoi le moteur? Qu'est-ce que ça apporte?
Pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait tout ça? Ben, j'en sais rien. Après, c'était pris dans un espèce de truc. Alors, tu commences avec Cauchemar. Alors, il faut quand même comprendre une chose. Parce que moi, j'ai fait ça de manière très naïve, très basique. Je ne me suis pas projeté sur l'image que je pourrais renvoyer de la profession quand j'ai commencé. Et Cauchemar en cuisine, c'est quand même un peu particulier. Mais je n'avais pas réfléchi à ça. Je m'en suis rendu compte après, quand j'ai eu le retour des chefs, qui me l'ont dit justement, c'est bien ce que tu fais, tu renvoies une belle image de notre métier. Donc, il y a eu Cauchemar. Après, je suis parti de Saint-Émilion parce que je voulais me lancer. On voulait avoir notre affaire avec Dominique. Mais il y a eu un petit laps de temps où, justement, ben, j'avais rien.
Entre deux.
M6, justement, ils sont entrés un peu dans la brèche. Ils me disent, tiens, ben, on aimerait bien faire un truc. Ça s'appelle Objectif Top Chef et faire un concours avec les apprentis. Mais sans hésitation, je dis oui, bien sûr, parce que c'est mon quotidien.
Oui,
l'apprentissage, la formation,
les concours,
j'aime ça. Et puis aussi, je pense que ça a renvoyé aussi une autre image de Cauchemar en cuisine, parce que c'est vrai qu'on s'est souvent arrêté à cette image de Philippe Etchebest, dur, qui gueule et qui rentre dedans. Mais il n'y a jamais la deuxième lecture, malheureusement, de savoir pourquoi c'est fait et la finalité. Bon, frère, mais ça, c'est pas grave. Donc, je me suis dit, ça va renvoyer une autre image de moi, dans cette transmission, dans cette formation des jeunes cuisiniers et cuisinières que je fais au quotidien, finalement. C'était ce que j'ai toujours fait. Et puis, il y a eu Top Chef. Donc là, l'excellence, les concours, où là où je me dis aussi, oui, bien sûr, j'ai beaucoup de légitimité par rapport à tout ça, puisque des concours, j'en ai fait. Donc là, pour le coup, je rentrais dans trois cases. Mm-hmm. Donc, je trouvais ça cohérent. Donc, mais pendant ce laps de temps où j'ai pas d'affaires.
Donc entre ça, 2013 et 2015, entre Saint-Émilion et Bordeaux, voilà. La télé prend peut-être plus de place.
Beaucoup
de place.
Mais
tu as toujours l'idée d'avoir des affaires avec Dominique.
Mais je suis en recherche, en tout cas, d'établissement. On est en recherche de ça.
En 2015, ouvre Quatrième Mur, la brasserie.
La brasserie du
Quatrième
Mur.
Avec la table d'hôte.
Non, la table d'hôte, c'est venu après. Il n'y a eu que le Quatrième Mur. Ouais. Donc forcément, quand il y a eu l'ouverture, il a fallu réadapter aussi les tournages, parce que là, je ne pouvais pas me consacrer autant de temps au tournage. Donc
là,
il a fallu adapter ça.
Là, tu ne te dis pas, je me lance dans un projet à Bordeaux, j'arrête la télé.
Non. Je me suis dit qu'on peut concilier les deux.
D'accord.
Si on doit parler du Quatrième Mur et de l'ouverture, ça a été... la plus grande peur de ma vie, en fait. Alors, comment ça se passe, cette ouverture? Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a eu une approche de la part d'Alain Juppé et de ses équipes pour venir au Grand Théâtre parce qu'il y avait, y avait des difficultés. C'était extrêmement compliqué. On s'est dit, bon, pourquoi pas? Donc, on a posé candidature avec un dossier. On s'est fait... et là, pour le coup, ça a été un projet vraiment en famille avec Charles qui est mon beau-fils, qui était en école d'architecture. Et on a travaillé là-dessus en se disant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc j'avais donné un peu des directives à Charles. J'ai dit, écoute, je veux une espèce de lieu où on puisse avoir trois ambiances un peu différentes. Une ambiance bar, une ambiance bar-comptoir, une ambiance un peu table longue comme ça. Une ambiance un peu plus cosy, une ambiance un peu plus brassée. Enfin, faire un truc comme ça, voilà. Et le jour de l'ouverture est arrivé. Enfin, deux jours avant, plutôt. Où je fais un repas. J'invite tous les artisans pour les remercier, pour le travail qu'ils avaient accompli. Et là, il y a 120 personnes qui arrivent en même temps. Donc, j'avais constitué mon équipe aussi. Mmh. On avait fait une carte relativement simple, assez courte. Ce que je recommande à chaque fois. Et là, un carnage. Tout le monde est arrivé en même temps. Je voyais les bons défiler. Je ne voyais plus le bout. Et j'étais en... Enfin, en tout cas, de mon ressenti, ça s'était très mal placé pour moi. Je rentre à la maison, c'était 3h du matin. Je ne dors pas. Le lendemain, ma Dominique, elle me dit qu'est-ce qui ne va pas? Dominique, c'est un carnage. Je ne vais pas y arriver. On va se faire défoncer. On ne va pas y arriver. Elle m'a dit, mais change. Je dis, ouais, je vais changer, il n'y a pas le choix, je change tout. Donc j'appelle les collègues, les collaborateurs, je dis, les gars, on change tout.
C'est-à-dire,
ok, pas de problème, on va faire un menu, on va faire ça. Donc le lundi, on se remet dans la mise en place, on restructure le menu, et le jour J, pareil, alors je ne dors pas, je ne dors pas le dimanche soir, je ne dors pas le lundi soir. Et le mardi, jour J, arrive, Dominique, elle a dit, ouais, ce serait bien de prendre peut-être un service d'ordre, machin. Oh, c'est bon, arrête, ça va pas, quoi, ça va, c'est bon.
Et là, ouverture de ouf.
Briefing de la salle à 10h30. Et là, je voyais déjà la queue devant le restaurant. Je fais, c'est pas possible. Je dis, on va se faire défoncer. Oh putain. Et on a ouvert finalement où la salle s'est remplie en 5 minutes. Il y a eu deux services. Ram, rebelote. Ça a été ça. On n'a pas pu faire de service de réservation. Le service d'Orange, on avait dit, on recevait à peu près en moyenne 200 appels tous les quarts d'heure. Donc, c'était impossible à gérer. Et j'en reviens toujours, finalement, à ce que je fais dans Cauchemar en cuisine, où je mets les restaurateurs sous l'eau.
Exprès.
Ouais. Pour voir les failles, voir où ça ne va pas. Ouais. Et ça marche à chaque fois, puisque je l'ai fait pour moi.
Et donc, cette maison qui est finalement, si je dis pas bêtise, une concession de la ville. C'est pas vraiment chez toi.
Non.
Donc, le chemin n'est pas fini. Il faut trouver ta maison chez toi. Ou c'était pas comme ça que c'était pensé?
Alors, j'avais en tête depuis très longtemps, je m'étais dit, le jour où je ferai un gastro, je ferai quelque chose de très différent. Mm-hmm. Et je vais faire un truc qui, où je recevrai les gens vraiment chez moi, dans une maison.
Dans tous les sens du terme.
Exactement, mm-hmm. C'est ce que j'avais en tête. Mais je l'avais en tête sans pour autant chercher, activement quelque chose. Et puis... Mais c'est arrivé un jour, et par hasard, sur une rencontre, c'est un peu à cause de Dominique aussi, parce qu'elle a rencontré quelqu'un, cherchait une place de parking, blablabla. Le gars, c'était un agent immobilier, puis il m'a dit, bah, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Puis on lui dit, ouais, je cherche un petit immeuble dans le triangle d'or. Truc introuvable, va chercher, amuse-toi. Et le gars rappelle Dominique 2 ans après. Madame Etchebest, j'ai quelque chose pour vous au Chartron qui correspond, je pense, à vos attentes, mais il faut venir demain et il faut faire le choix, il faut choisir vite. Je vois l'immeuble, je fais Je rentre dans cette menuiserie et monsieur Meunier qui nous accueille me dit bonjour monsieur Etchebest, j'ai travaillé pour vous au 4 murs, j'ai fait des menuiseries, vous vous rappelez? Je fais ah, mais oui, bon sang, c'est vrai. C'est vrai, mais écoutez, ça me fait plaisir. Je vous laisse visiter la maison. Je fais le tour de la maison. Dominique reste avec monsieur Meunier. Elle parle avec lui pour connaître un peu l'histoire de la maison.
Là, comment il est arrivé là. Donc là, imaginez qu'on est dans un immeuble qui est donc une menuiserie.
Ah oui.
Un peu comme tu le disais.
Un vrai atelier à la Gepetto.
Voilà.
Mais qui sentait bon. Qui sentait bon le bois, qui sentait bon le travail, qui sentait bon l'artisanat, qui sentait la passion d'un métier. Qui est extraordinaire. Et c'était le seul de la place, l'irréductible gaulois, qui tenait tête avec sa menuiserie autour de tous ses restaurants et ses bars sur cette place-là. Et le monsieur était incroyable. Donc je fais le tour, ça dure 5 minutes, je monte au dernier étage, je descends, je regarde Dominique, je fais signe de la tête, je fais c'est ça.
Ça sera chez nous.
C'est exactement comme ça que je voyais l'endroit où j'aurais voulu m'installer. Et puis voilà. Et puis on fait une proposition, sachant qu'il y avait d'autres acquéreurs. Monsieur Meunier a dit à l'agent, c'est à monsieur Etchebest que je veux vendre mon bien parce que je sais qu'il en fera quelque chose de bien.
C'est donc votre maison, probablement la plus intime. Il y a beaucoup de vous dans cette maison. Il y a beaucoup de photos, d'images, qu'elles soient personnelles ou de voyage. Tu t'y sens bien. C'est la maison dans laquelle tu te sens le mieux. Après tout un long parcours qu'on vient de détailler, beaucoup de maisons que tu as faites, tu trouves qu'elle te ressemble, cette maison, qu'elle vous ressemble à toi et Dominique ?
Alors c'est très difficile de partir d'une page blanche avec une idée en tête et de se dire voilà ce que je veux faire, comment ça va être fait. Donc il y a aussi un architecte qui travaille dessus, on donne les idées. Il y a beaucoup de choses qui changent, mais ça qui est bien aussi, ça qui est passionnant en fait dans un chantier, c'est que ça change, ça bouge, on réfléchit, on travaille dessus. Et le chantier a duré 2 ans et demi, ça a été très très long. Puis il y a eu le Covid qui est passé par là, enfin bref. Le jour où on a ouvert le premier service, quand le premier client est arrivé, qu'il a sonné à la porte, qu'on a fait ce service, et qu'à la fin du service, les gens nous ont dit « on se sent bien chez vous », là, tu te dis « c'est exactement ce que je voulais entendre ». Et c'est exactement ce qu'on voulait dans cette maison. C'est que les gens ressentent quelque chose, une vraie expérience, où il faut sonner, on les accueille au bar, on introduit la maison, on leur explique comment ça s'est fait. On les invite à passer en cuisine, où je partage un petit verre, une petite infusion avec eux pour réinitialiser le palais avant de passer à table. Après, c'est le passage en bibliothèque, pour les gens qui mangent en bibliothèque, s'il y a une table aussi privée, ou alors dans la salle à manger là-haut. Et pour finir, après, au bar, pour le café et la Madeleine de Proust, le dessert que j'aime. Voilà, cette expérience globale dans une certaine une ambiance, une certaine intimité aussi, c'est ce qu'aiment les gens aussi finalement, de rentrer dans cette intimité, parce que tous les objets qui sont dans cette maison nous appartiennent.
Dans cette maison, et avec l'emploi du temps qu'on imagine, des passions sportives qui te prennent, j'imagine, du temps, des passions musicales qui te prennent beaucoup de temps, tu joues à la batterie dans un groupe. Avec ces engagements télévisuels qui prennent beaucoup de temps, est-ce qu'on arrive à être un peu dans cette maison
Oui, heureusement. Ouais. Mais c'est un vrai travail, hein. c'est un vrai travail. Et c'est vrai que les journées sont extrêmement bien remplies, que ce soit pour la part télé, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué. De passer de rien au départ, quand j'ai quitté Saint-Émilion, à 2 maisons, t'imagines bien que le planning et le temps de tournage a été considérablement réduit et adapté pour pouvoir continuer à faire les émissions, mais avec une organisation très différente. Donc ça a été bien fait.
D'accord.
Donc la part, elle a été réduite pour que je puisse me consacrer vraiment aux maisons. Après, pour le reste, bien sûr, j'ai des activités personnelles, à savoir le sport, et j'ai besoin d'en faire. C'est essentiel pour moi, c'est vital pour mon équilibre. La musique aussi, mais c'est un plaisir, c'est juste une petite récréation que je m'accorde dans des moments libres que j'arrive à trouver, mais ça peut être très tôt le matin ou tard le soir, toujours pareil, c'est après en dehors de mon travail. Mais qui sont essentiels aussi, une fois de plus, pour mon équilibre. J'en ai besoin. Voilà, et je crois que quand on veut arriver, à se faire plaisir dans plein de domaines, on y arrive. Voilà, c'est une vraie question d'organisation, de volonté. Mais c'est en tout cas un travail à temps plein. Et puis aussi, il y a le temps que je peux passer un peu avec ma famille, qui est très important.
C'est ce que j'allais reboucler sur la transmission dont on parlait tout à l'heure, voilà. Dans ces émissions de télé qui te permettent d'avoir une forme de transmission. Effectivement, avec Dominique, vous avez un fils,
oui,
qui, si je ne dis pas de bêtises, n'a pas l'air de se diriger forcément vers la cuisine.
Pas du tout.
Toi, tu avais ce rapport-là avec ton père, tu ne l'auras pas forcément avec ton fils, donc
non.
Tu le trouves ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui?
Il est plutôt en social,
ouais,
mon fils Oscar. Là. Il l'aide à la personne. Je trouve ça vachement bien. C'est un garçon qui est très... qui est très gentil, qui aime aider les autres aussi. Et c'est très bien, je suis très fier de ça. Je suis très fier de ce qu'il va faire.
Il ne vient pas en cuisine avec toi, mais il aime quand même un peu ça.
Alors, il faut savoir que Oscar, pendant sa scolarité, travaille aussi, parce qu'il a des vacances, mais il faut qu'il apprenne à vivre aussi, il faut qu'il apprenne la vie. Dès son plus jeune âge, je crois qu'il a commencé à 13 ou 14 ans à participer à la vie de l'entreprise, à être au service, à être au bar, à faire des choses, à faire des activités pour qu'il se projette aussi. Dans la vie active, et avoir conscience des valeurs, la valeur des choses aussi. Pour moi, c'est très important. Après, il fera, je lui ai toujours dit, fais ce que tu as envie de faire, mais fais le bien. Fais-toi plaisir dans ce que tu fais. Mais en tout cas, on l'encourage dans son parcours et on l'accompagne beaucoup.
En tout cas, on vous souhaite de continuer dans cette belle maison et plein de bonnes choses. Est-ce qu'il y a d'autres projets qu'on pourrait éventuellement évoquer aujourd'hui ou pas?
Il y en a, oui, il y en a. Il y a d'autres projets, effectivement.
Et on peut les dire.
Il y a d'autres projets.
Il peut y avoir quelques prémices.
Alors, ce sera sur Bordeaux de toute façon.
Oui, ça, on a bien compris l'attachement.
Parce que, il y a un vrai attachement à Bordeaux. Et puis, c'est plus facile à gérer quand on est sur place. Il y a d'autres projets. Il y a d'autres projets.
Il est dit que je vais les partager. Je sens bien qu'il y a une petite hésitation.
Est-ce qu'on peut y aller ou quoi? On peut parler de signature, on peut parler de. Des projets peut-être là où on ne m'attend pas. Spécialement, ça se restera dans le culinaire, bien évidemment, mais en tout cas, il y en a. J'espère qu'ils vont se réaliser cette année. En tout cas, on a bien entamé les choses et les recherches. Ça va être super, parce que différent, parce que ça va compléter aussi ce qu'on a aujourd'hui et toujours dans cette dynamique aussi de vouloir avancer, mais aussi cette dynamique de vouloir entraîner les collaborateurs aussi avec nous. Et on sent, et c'est ce qui nous pousse aussi à moi et à Dominique finalement de faire ça aujourd'hui, parce qu'on sent qu'on a des gens derrière nous et des équipes qui ont envie de faire des choses et qui poussent aussi un petit peu.
Donc on peut dire, parce que je vois qu'on est sur le roi du teasing, là, on a un peu d'infos mais pas trop, on peut dire qu'il y aura une troisième maison bordelaise, on ne sait pas ce que ce sera, ça sera autour de la cuisine, mais en tout cas surprenant.
Ouais. Très surprenante.
Eh bien, en tout cas, bonne chance pour ce projet. Merci beaucoup pour l'échange.
Merci.
Et longue vie à la famille Etchebest à Bordeaux.
Eh bien, merci.
Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'À table avec, le podcast du magazine Le Chef. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast ou dans votre appli de podcast préférée.